De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre magazine positif, celui que vous attendiez en 2021. Ici avec Mélanie Gomez, une seule mission nous habite, prendre soin de vous. Et donc maintenant Mélanie, on va lancer la partie tour de table, la partie tendance de ce magazine.
Voilà, c'est parti effectivement Julia. Et justement pour démarrer, docteur Aurène Marco, docteur beauty, notre docteur beauty national. Vous êtes l'un de nos experts ici beauté pour toutes les questions donc esthétiques, etc. Qui peuvent nous aider, elles aussi, bien sûr, à nous sentir mieux dans notre tête. De quoi on va parler ce matin ?
Eh bien, ce matin, on va répondre peut-être à la question. On a souvent cette question en consultation. Est-ce qu'on peut effacer une cicatrice ? Et aussi, faut-il vraiment toutes les effacer ?
Mais on peut, on est d'accord, dites-nous oui.
On peut améliorer les choses.
On peut améliorer, mais le faut-il ? Vaste question. Merci, docteur Marco. On revient avec vous dans quelques minutes pour faire disparaître ces cicatrices qui peuvent parfois vraiment être à l'origine de gros complexes. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, je me tourne vers vous, Elsa Lévy. Je crois qu'on va, une fois de plus, partir en vacances, voyager grâce à vous, décidément.
Voilà, alors cette fois, parce que c'est sûr, les vacances d'été sont bel et bien terminées et selon un sondage Odoxa, seulement 43% des actifs se disent en meilleure forme au retour de leur congé, donc c'est ballot. Du coup, je vous propose aujourd'hui un concept révolutionnaire des vacances reposantes, avec le slow tourisme.
Alors, le slow tourisme, ça vient d'où ? Parce que ça vient toujours de pays étrangers, vos tendances. Hein,
oui, alors là, on va remonter un peu le temps et on va aller en Italie. On est en 1986, quand le critique gastronomique Carlo Petrini assiste à l'implantation d'un McDonald's en plein cœur historique de Rome. Il est tellement sidéré qu'il décide alors de créer la slow food, en opposition au fast food et à la malbouffe en général. Et ce courant slow, qui consiste à privilégier la qualité à la quantité et qui prône la lenteur, va s'étendre lentement mais sûrement à d'autres pans de la vie sous le nom de slow life. Le rappeur Oxmo Puccino en a même fait une chanson et prévient la slow life n'est pas la no life, c'est même l'inverse. Et cette philosophie slow s'est déclinée logiquement jusqu'au voyage avec le slow tourisme.
Alors justement, ça consiste en quoi le slow tourisme ?
Alors le slow tourisme, c'est l'opposé du tourisme de masse. Vous savez, ces voyages en mode Benny Hill où on a tendance à vouloir faire un maximum de trucs en un minimum de temps. Comme son nom le laisse entendre, le slow tourisme, c'est l'inverse. On va faire un minimum de trucs en un maximum de temps et en mieux. Ici, on se concentre sur un endroit en particulier et on s'y émerge. On va à la rencontre des locaux. On privilégie une nuit chez l'habitant à une nuit à l'hôtel, on mange local et on se déplace avec des modes de transport doux et peu polluants, donc le vélo, le train, le bateau, le cheval ou même en canoë et kayak si on opte par exemple pour la descente d'un fleuve en faisant des haltes dans des gîtes ruraux. Mais ça ne vous empêche pas de prendre un avion pour vous rendre dans un pays étranger. Hein. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller en Inde à pied ou à vélo. En revanche, une fois sur place, on se déplace et on vit en harmonie avec la nature.
Bon, Elsa, comment on s'y prend très concrètement pour faire un voyage slow ?
Eh bien, quoi de mieux que de poser directement la question à Philippe Aurin, qui est directeur des guides touristiques Michelin Édition, qui a publié un guide intitulé « Slow Tourisme » en février dernier.
Le slow tourisme, c'est un tourisme bienveillant. J'aime beaucoup ce mot. Donc, il faut prendre son temps, déjà prendre son temps de préparer. Et puis sur place, prendre son temps également, délaisser les sites les plus visités, profiter de longues balades, profiter des lieux aussi qui sont chers à la communauté locale dans laquelle vous allez vous trouver, participer à des événements, soutenir l'artisanat. C'est vraiment important de s'imprégner des lieux au plus près des habitants.
Voilà, et j'ajoute que ce guide du Michelin est une véritable petite bible de conseils pratiques pour bouger en France avec 52 destinations. Parce que c'est bien de sortir des sentiers battus, mais quitte à aller lentement, autant gagner un peu de temps avec un bon guide. Après, sur Internet, il y a également plein de blogs très complets, des récits de voyage. Car c'est aussi ça, la philosophie du slow tourisme, c'est des partages d'expériences et de bons plans entre voyageurs. D'ailleurs, préparer son voyage, c'est déjà un peu commencer le voyage.
Et il y a beaucoup de gens qui voyagent comme ça, Elsa ?
Eh ouais, de plus en plus, c'est même un des modes de voyage les plus prisés aujourd'hui par les Français. La crise sanitaire et ses contraintes ont d'ailleurs accentué ce phénomène. Et c'est logique, car le slow tourisme, c'est avant tout un état d'esprit. Donc on va peut-être limiter les distances, mais on va adopter un rythme naturel, retrouver son horloge interne, déstresser et se reconnecter à soi. Et étrangement, en allant lentement, on va gagner du temps, ou du moins la sensation d'en profiter pleinement, au point où j'étais à deux doigts de faire cette chronique au ralenti. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas très radiophonique. Bref, en plus d'être reposant, le slow tourisme est un tourisme durable, en lien avec la nature, soi-même et les autres. Donc vous l'avez compris, pour voyager mieux, il est urgent d'être lent, et comme le disent les Italiens à l'origine de ce mouvement, « qui va piano bassan.
Ah, bravo. Merci
très
beaucoup.
Chouette.
C'était très chouette, Elsa Lévy.
Avec plaisir.
Il va peut-être falloir passer la seconde, Mélanie.
Oui, non,
parce qu'on était bien là. Bah oui, c'est à votre tour, docteur Aurèle Marco.
Alors, lentement parler de...
Très lentement parler
la cicatrisation.
Bah oui, la cicatrice. Alors moi, ça me connaît, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des cicatrices qu'on aime, des cicatrices qu'on a envie d'effacer. En gros, à quoi ça ressemble déjà une cicatrice normale?
Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une effraction de la peau, il y a une cicatrice. Donc, j'ai souvent cette question qui revient avant une intervention. Est-ce que je vais avoir une cicatrice, docteur? Oui, évidemment, si on opère, on a une cicatrice. Après, elle peut être de plus ou moins de bonne qualité. Et pour être de bonne qualité, il y a des choses à faire, on va en parler.
Qu'est-ce qu'il faut un bon chirurgien, déjà.
Alors, il y a effectivement la manière dont on opère, la manière dont on referme les tissus, mais... Également, il y a une partie un peu génétique, un peu intrinsèque. Il y a des facteurs qui sont importants à connaître pour une bonne cicatrisation. Une cicatrice normale, déjà, c'est quoi?
C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est boursouflé? C'est plat? C'est comment?
Voilà. Une cicatrice normale, elle doit être plane, assez linéaire, ou en tout cas placée sur le corps. On a ce qu'on appelle les lignes de tension. Donc sur le visage, par exemple, toutes les rides, elles sont placées toujours un petit peu dans le même sens. Et donc ça, ce sont les lignes de tension du corps. Et quand on fait une cicatrice chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va opérer quelqu'un, il faut essayer d'opérer en respectant ces lignes de tension pour avoir une meilleure cicatrice. Après, vous avez des cicatrices qui sont d'origine traumatique, une brûlure, un accident, etc. Et là, on n'a pas le choix. Donc, une cicatrice qui est jolie, c'est une cicatrice qui est plane, qui aura de toute façon une trace colorée, qu'elle soit un peu plus foncée ou plus claire. Mais l'idée, c'est qu'elle soit plane. Et les cicatrices qui sont pathologiques sont des cicatrices qui sont un peu épaisses, un peu rouges.
C'est quoi une cicatrice anormale? Parce que là, vous avez dit jolie cicatrice. Vous, en tant que médecin, chirurgien esthétique, il y a vraiment des cicatrices que vous trouvez jolies?
Il y a des cicatrices, oui, qui sont plus, en tout cas, qui peuvent être plus masquées que d'autres.
Et celles qui sont anormales, alors elles sont...
Et celles qui sont anormales, elles sont boursouflées. Alors, boursouflées au début, c'est normal, mais boursouflées au bout d'un an et demi, deux ans, là, il faut essayer de consulter peut-être un dermatologue ou un plasticien pour essayer de voir si on peut agir encore dessus. Une cicatrice, globalement, elle met 12 mois. Entre 12 mois et 24 mois à se stabiliser. Donc pendant ce laps de temps, on peut encore jouer dessus avec des facteurs, les facteurs dont je vais vous parler.
Mais c'est-à-dire, on peut jouer dessus avec quoi? Avec des crèmes, par exemple?
Avec des crèmes, par exemple. Ah oui. Alors, donc, déjà, si c'est quelque chose de programmé, on va éviter de fumer, on va éviter l'exposition au soleil.
C'est pas juste pour nous embêter, arrêter de fumer, le tabac nuit à la cicatrisation.
Vraiment nuit à la cicatrisation, et on va masser les cicatrices. Mettre des crèmes au départ, c'est très important. Donc il y a des crèmes à base de silicone ou des crèmes à base de plantes qui permettent de calmer un peu l'inflammation des cicatrices, et ça permet après d'avoir une meilleure cicatrisation. Et si vraiment on voit que ça commence à s'épaissir ou à boursoufler, on peut mettre des petits pansements à base de silicone, c'est des choses transparentes qu'on met qui vont appuyer sur la cicatrice pendant les premiers temps et empêcher qu'elle devienne épaisse.
Ça, c'est quand c'est chaud, quoi, quand ça vient d'être ouvert et refermé.
Quand on est entre le moment de l'opération et on va dire 12-15 mois. D'accord. Après, si on veut être plus actif,
c'est les lasers,
on peut proposer les lasers. Ouais. Les lasers, donc il y a des lasers qui permettent de diminuer l'inflammation. Il y a des lasers qui permettent aussi d'enlever les couleurs.
Pas mal.
Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc, si vous avez une cicatrisation qui est pathologique, n'hésitez pas à aller consulter un dermatologue laseriste qui pourra vous proposer un de ces deux lasers. D'accord.
On peut effacer pas mal de cicatrices au laser?
Alors, j'entends souvent ça, mais docteur, c'est pas grave, on va pouvoir effacer ma cicatrice au laser. Non, effacer non, l'améliorer, on peut tenter avec tous ces traitements, mais l'effacer complètement, c'est pas possible.
Il faut combien de séances en général pour du laser? Parce qu'on a l'impression qu'on y va, c'est réglé. Non, il faut quand même plusieurs sessions.
Non, il faut plusieurs séances, entre 4 et 6 séances environ, et c'est pas toujours pris en charge par la Sécurité sociale.
Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour une cicatrice chirurgicale?
Alors, pour une cicatrice chirurgicale, c'est ce dont on a parlé. Masser la cicatrice, éviter l'exposition au soleil et le tabac. D'accord.
D'ailleurs, je signale, je crois que quand une dame ou un monsieur vient pour un lifting, c'est une des choses vraiment très importantes sur le visage notamment. La cicatrisation peut être compliquée si on fume.
Partout sur le corps, en fait, on préconise vraiment d'arrêter le tabac. Moi, je demande 3 semaines à 1 mois avant l'opération de diminuer au maximum. Après, on peut pas.
Une grosse fumeuse, vous ne le ferez pas de lifting si elle fume 2 paquets.
Décale.
Ah ouais, vous la décalez.
Ouais.
2 paquets par jour,
vraiment,
c'est pas possible.
C'est dangereux. C'est dangereux. On peut avoir des défauts de cicatrisation qui peuvent être terribles sur le visage.
Je ne savais pas que le tabac était aussi important.
Si vous n'envisagez pas le lifting, c'est pas grave.
Je sais pas. Je vais prendre rendez-vous avec le docteur. Il va me dire. Mais par contre, ce que moi j'ai longtemps envisagé, c'est de me faire réopéré ma cicatrice.
Donc vous avez une cicatrice.
Moi,
où,
j'ai une
Julia
cicatrice au bras. Regardez, je me dessape. Hein. Mais j'ai
pour
une cicatrice
voir, attention, attention. Sur europe.fr.
qu'on ne voit plus beaucoup parce que je l'ai recouverte d'un tatouage. Mais effectivement, j'ai eu une grande opération.
D'accord.
Et j'étais pas très satisfaite du résultat.
Et c'était une cicatrice
au niveau du bras,
de quoi
hein.
De brûlure, du troisième degré.
C'était une brûlure. Et donc, du coup.
Est-ce qu'on peut réopérer, par exemple, sur une cicatrice qui a déjà.
Mais est-ce que. Alors, déjà, on peut effectivement tenter d'améliorer une cicatrice de brûlure. Des fois, quand il y a un manque de peau de part et d'autre, on a des techniques chirurgicales qui nous permettent de mettre des ballons, en fait, sous la peau, de part et d'autre de la brûlure. On les gonfle petit à petit en consultation et ça fait un excès de peau. Et cet excès de peau permet d'enlever le placard cicatriciel.
Mais là, elle est vieille, sa cicatrice, parce que quand vous étiez enfant, Julien,
oh, je vous remercie.
Non, mais une cicatrice humaine.
Oui, mais c'est effectivement une vieille cicatrice. Voilà.
Mais comment vous avez vécu le fait là de la gommer avec le tatouage?
Je vais vous dire, ça m'a fait hyper bizarre parce que cette cicatrice, ça faisait 30 ans que je vivais avec et je l'aimais beaucoup. Donc j'ai compris ce que vous avez dit en début de chronique. Il y a certaines cicatrices qu'on n'a pas envie d'effacer. Alors je parle à toutes celles et à tous ceux qui ont des cicatrices. Eh bien, aimez votre cicatrice, chérissez vos cicatrices. C'est aussi une partie de vous-même.
Exactement. Bon.
Merci beaucoup, docteur Aurène Marco. Merci à vous également, Elsa Lévy. On vous retrouve très bientôt tous les deux dans Bienfait pour vous avec d'autres tendances venues de l'étranger et d'autres conseils beauté, esthétique.